C'est toujours une joie de pouvoir être dans la maison du Seigneur et pouvoir également, avec entre frères et sœurs, louer notre Seigneur, car il est bon et juste de le louer. C'est un temps particulier pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Nous avons un mois, nous terminons un mois, c'est le mois de l'enseignement, c'est-à-dire depuis le début d'année. Nous avons pour chaque mois un thème particulier. Nous avançons dans l'apprentissage, dans la recherche de la vision que le Seigneur veut pour notre Église. Et donc ce mois d'avril, nous terminons sur le mois de l'enseignement. Alors l'enseignement, donc ça a différentes définitions, mais ça peut également avoir comme définition une transmission, la transmission de connaissances d'un maître à un élève. Parce que nous, c'est vrai qu'en Occident, on a l'habitude, tout ce qui concerne l'enseignement, notamment l'enseignement biblique, c'est d'assister à des cours bibliques ou d'aller dans une école biblique. Mais dans la culture, notamment juive, l'enseignement était très important et se faisait entre maître et disciple. Il y avait une relation particulière, ce n'était pas uniquement une transmission de connaissances, mais c'était où le disciple vivait vraiment avec le maître. Nous le voyons d'ailleurs dans les évangiles, où les disciples ont vécu tout au long du ministère avec Jésus. Ils vivaient même, et c'était ce qui est important, c'est que même les disciples, à la fin, tellement ils avaient l'habitude de vivre avec Jésus, avec le maître, qu'ils ressemblaient même dans leur façon de vivre, dans leur façon de parler, dans leur façon d'être. Et c'est ça finalement, cette relation, cet enseignement, c'est de pouvoir ressembler tellement à notre maître, à Jésus, que finalement, des gens extérieurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, même si on ne parle pas, puissent dire, il y a quelque chose de différent. Tiens, je reconnais, ce sont des disciples de Jésus. Cette parole, et nous sommes vraiment, depuis que nous sommes sur terre et jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce qu'il décide de nous faire d'aller vers lui, nous sommes à l'école de la vie, à l'école de Jésus. Cette parole que nous connaissons bien dans 2 Timothée à 3,16, qui nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On retrouve l'enseignement. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si vous vous considérez comme disciple de Christ, si vous voulez, dans votre œuvre, dans la vie, dans votre vie chrétienne, être accompli et propre à toute bonne œuvre, oui, la parole de Dieu, qui est la source, est utile, elle est là pour nous enseigner. Le Seigneur se révèle, c'est un Dieu de révélation. Il s'est déjà révélé dans l'Ancien Testament. Et nous avons différents exemples. Nous allons en prendre trois, car le Seigneur se révèle et il nous montre qui il est. Donc, dans un premier temps, Dieu se révèle. Alors, je prends trois exemples que nous connaissons tous. Le premier exemple, c'est au tout début, au moment de la création, un peu après la création, dans Genèse 2, au verset 15-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Alors, l'Éternel avait créé l'homme, il a créé le jardin, il le place dans le jardin d'Éden, et il lui dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous connaissons tous qu'est-ce qui s'est passé après. Nous connaissons tous les conséquences de la désobéissance. Mais au départ, ça ne devait pas être comme ça. Le Seigneur avait tout créé, le Seigneur avait tout fait. Il avait créé ce jardin magnifique avec tous ses arbres. Il a créé l'homme et la femme par amour. C'était là le chef-d'œuvre de la création divine. Il lui a dit, voilà, il lui a présenté toutes les bonnes choses que le Seigneur avait prévues. Mais l'histoire, on connaît après comment le récit, comment ça s'est passé, et toutes les conséquences. Alors en préparant ce message, je me suis dit, c'est vrai que le Seigneur aurait pu donner uniquement un ordre à Adam sans rien lui expliquer, en lui disant, voilà devant toi tous ces arbres, mais en ne lui disant pas particulièrement, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que malheureusement, et ça c'est vrai pour l'être humain, lorsque, et on voit déjà avec des enfants, mais c'est vrai pour eux, lorsqu'on dit tu ne fais pas ça, lorsque vous dites à votre enfant tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas manger maintenant, tu ne vas pas faire ci, qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va faire d'abord l'impression qu'il obéit, et après il va vouloir faire parce que c'est l'interdit. Et malheureusement, c'est vrai, ça s'est révélé être vrai pour Adam et pour Ève. Le Seigneur aurait pu également empêcher Adam et Ève de s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu mettre des chérubins pour défendre et empêcher justement qu'il y ait cette transgression. Il aurait pu également empêcher le serpent de tromper Ève et Adam. Oui, le Seigneur aurait pu, mais le Seigneur ne l'a pas fait. Le Seigneur a donné des ordres, il a fixé des bornes, mais il a laissé la liberté à Adam. Parce que, au fond de lui, le Seigneur, et ça montre le caractère de Dieu, ça révèle un des caractères de Dieu, Dieu est amour, mais il veut que sa créature l'aime d'un amour vrai, d'un amour libre. Et c'est uniquement par liberté qu'on peut aimer réellement. Sinon, c'est un amour. L'amour obligatoire, ce n'est pas du véritable amour. Donc Dieu, sinon Adam aurait été comme un robot. Non, Dieu voulait par amour et a donné cette liberté, cette possibilité à l'être humain de pouvoir le suivre. Donc il fixe les bornes. Il lui dit, attention, voilà les conséquences. Si tu t'éloignes, tu es libre, mais c'est ton choix. Et voilà, et l'être humain est libre. Et c'est cette liberté, donc Dieu nous a donné cette liberté. Et Dieu nous a donné également, nous qui sommes ses enfants, nous avons également cette liberté. Dieu nous a donné sa parole, il nous donne son esprit. Son esprit est là. C'est vrai que souvent on dit, viens Esprit Saint, mais l'Esprit est déjà là. Mais est-ce qu'on lui fait de la place? Mais on a cette liberté de croyant, cette liberté d'enfant de Dieu, mais il est vrai que cette liberté, ne faisons pas de cette liberté une occasion de tomber. Le Seigneur nous aime de toute façon, quoi que soit notre décision, mais il est vrai que le Seigneur fixe des bornes, tellement il nous aime, tellement il connaît l'être humain mieux que nous-mêmes, il sait que nous sommes limités. Nous sommes limités dans notre compréhension, nous sommes limités dans beaucoup de choses. Le Seigneur connaît toutes choses et veut notre bien, mais il nous a donné cette liberté, mais c'est cette liberté, c'est par sa parole et par dans l'obéissance au Seigneur que le Seigneur, que cette liberté vraiment peut être bénéfique pour nous, enfants de Dieu. Également, dans un deuxième exemple, nous voyons, alors nous progressons un peu dans Genèse, au chapitre 18 et au verset 22 à 23. Alors, cette fois-ci, c'est Abraham. Et c'est l'épisode où Dieu annonce à Abraham qu'il va juger Sodome et Gomorre. Donc, nous connaissons l'histoire, le récit. Et il est dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Et il est dit également, mais Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et si vous lisez dans Genèse 18, dans ces versets que nous connaissons, mais que je vous invite à relire, Abraham, qui a une relation très forte avec Dieu, très, très vraie avec Dieu, se fait même l'avocat, le porte-parole de tous ces pécheurs de Sodome et Gomorre, de ces habitants de Sodome et Gomorre, qui sont vraiment des grands pécheurs devant l'Éternel. Mais malgré tout, Abraham, se place comme une sorte d'avocat. Et j'ai compté 6 fois. Donc, il lui dit, est-ce que tu ferais périr le juste avec le méchant s'il y a 50 justes, puis 45, puis 40, 30, 20, et finalement 10. Pendant 6 fois, Abraham, voilà, arrive, j'ai envie de dire, ben, il arrive à, comment dirais-je, il arrive convaincre Dieu, mais en fait, ce n'est pas convaincre Dieu. En fait, déjà, dans un premier temps, Dieu ne cache pas à Abraham ce qu'il va faire. Il a une telle relation, il se permet même de dialoguer avec Dieu comme on dialogue avec un ami. Dans Jacques, au chapitre 2 et au verset 23, il est dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. » Cette relation particulière, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous l'avons tous et nous sommes tous amenés à avoir cette relation avec notre Seigneur. Et c'est par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a donné à la croix, lorsqu'il a tout accompli, lorsque le voile s'est déchiré dans le temple, nous avons tous accès à cette relation amicale avec notre Seigneur par Jésus-Christ. Amen. C'est des choses merveilleuses, mais vraiment à la lumière de ce qu'a fait Jésus-Christ, vraiment ces exemples de l'Ancien Testament sont d'autant plus beaux. Et également, cela nous montre que Dieu se laisse interpeller, mais on aurait presque l'image d'un Dieu terrible, d'un Dieu dur, qui se laisse finalement interpeller par Abraham. Mais en réalité, le cœur de Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Et même, il aime que son enfant, que Abraham, puisse aller, parce que le cœur d'Abraham, il est, même si il rejette le péché, voilà, il a de la compassion pour tous ses pécheurs malgré tout. Et Dieu, en fait, ça révèle cette relation particulière entre Abraham, le croyant, et Dieu, mais ça révèle également qui est Dieu. Dieu est miséricordieux. Et même aujourd'hui, nous voyons le mal de plus en plus triompher, nous voyons véritablement des méchants de plus en plus être méchants et n'ayant même pas honte de leur méchanceté. Nous voyons, voilà, le mal triompher. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on peut se dire pour certaines occasions ou certaines fois, on peut dire, Seigneur, tu vois, tel dirigeant d'un pays qui fait beaucoup de mal, ou telle personne vraiment très méchante ou qui apporte le mal sur terre, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose? Est-ce que tu pourrais pas, parce qu'il tombe par terre ou qu'il tombe dans les escaliers, enfin, quelque chose. Des fois, on a cette dureté en se disant, bon, moi, je suis bon, je suis un bon chrétien, mais les autres, Seigneur, est-ce que tu peux pas, malgré tout, t'en occuper, On prie pour eux, mais quand même. Non, le cœur de Dieu est miséricordieux. Dieu haït le péché. Parce que ça salit sa créature, ça salit la création de Dieu. Mais d'un autre côté, Dieu aime le pécheur. Il aime le méchant. Oui, il aime. Ça peut nous paraître incompréhensible, mais c'est le cœur de Dieu. Et comme il y a plusieurs milliers d'années, il a, avec Sodome et Gomorre, Dieu fait la même chose aujourd'hui. Et nous ne devons pas prier pour que le malheur arrive aux méchants, mais pour qu'ils puissent être touchés par la miséricorde de Dieu. Amen. Également un troisième exemple, nous continuons dans le livre d'Exode, cette fois-ci avec Moïse. Moïse, ce grand prophète. Moïse, nous lisons dans Exode au chapitre 33 et donc au verset 12 à 18. Voilà, Moïse, il est avec le peuple dans le désert. Alors, Dieu lui a donné un peu Dieu lui a donné une direction, mais Moïse peut douter de temps en temps de ce que, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que face aux difficultés, est-ce que Dieu intervient? Et nous lisons dans Exode 33 au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, donc vers la terre promise, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je te trouverai encore grâce, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne seras-tu pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Voilà quelle relation franche, vivante entre Moïse, un homme, même s'il est un prophète, mais ça reste un homme, et le Dieu trois fois saint. On a vraiment une relation. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, Moïse a eu un appel particulier, comme Abraham, mais malgré tout, c'est une relation vraiment très forte. Il lui dit, d'ailleurs, vous avez constaté, lorsqu'il parle du peuple, Moïse ne dit pas « moi et mon peuple », il lui dit « moi et ton peuple ». Moïse, ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est que Moïse, dans toute cette relation, ne se met pas au centre de la relation. En fait, uniquement par orgueil ou pour désir, il aurait pu dire « Seigneur, tu m'as choisi, tu as choisi mon peuple pour être voilà, un peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. Bon, ce peuple, maintenant, tu dois lui donner des richesses, tu dois lui donner la force, c'est mon peuple, c'est moi qui suis à la tête. » Non, il lui dit « c'est ton peuple, parce que c'est Dieu qui a choisi ce peuple. » Amen. Et justement, il met dans cette relation, c'est pas pour assouvir ses propres besoins, même si Dieu sait ce dont il a besoin, mais il met cette relation, Dieu au centre de cette relation. Et c'est important, frères et sœurs, de le comprendre, nous, dans notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur, il nous aime tellement, il est tellement bon, même il est bon avec les méchants, il est bon avec son peuple. Et évidemment qu'il connaît nos besoins, évidemment qu'il connaît nos limites, nos peurs, nos colères, tout ce que l'on a dans notre cœur, il le connaît mieux que nous-mêmes. Et il veut notre bonheur, il veut pas notre tristesse, il veut au contraire notre joie, notre force, il veut sa force. Mais nous devons comprendre que dans notre relation avec le Seigneur, c'est lui qui doit être mis au centre. Amen. C'est par Jésus et c'est en ayant les yeux fixés sur Jésus. C'est en cherchant la justice de Dieu dans un premier temps. Et toutes les choses après viendront. Nous lisons dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 14. Nous avons auprès de lui, donc Jean qui écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le Seigneur recherche cette relation vraie, et pour avoir une vraie relation, Seigneur, nous devons toujours lui demander quelle est ta volonté dans ma vie, quelle est ta volonté, voilà, quelle est ta volonté. Le Seigneur connaît tellement nos besoins, n'ayons pas peur de se dire, si je lui dis ça, peut-être qu'il risque d'oublier ce dont j'ai besoin. Pas du tout, le Seigneur connaît mieux que nous-mêmes nos besoins. Mais plaçons-le au cœur de notre relation. Et également, Moïse qui lui dit quelque chose assez inimaginable, « Fais-moi voir ta gloire, la gloire du Dieu trois fois saint. » Mais j'ai encore une bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, nous voyons la gloire de Dieu. Dans Hébreux, au premier chapitre, il est dit « Le Fils est le reflet de sa gloire ». Jean qui écrit dans son épître au tout début « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». C'est par Jésus-Christ où nous voyons la gloire de Dieu et par cette relation que nous avons avec notre Seigneur, où nous voyons la gloire avancer tous les jours dans notre relation, dans tout ce que fait Dieu, dans notre vie. Amen. Oui, frères et sœurs, ce sont des paroles encourageantes, des paroles qui interpellent, et c'est vraiment quelque chose que nous devons avoir conscience et avancer avec le Seigneur. Et dans cette deuxième partie, le Seigneur nous appelle à vivre une vie de disciple. Une vie de disciple, nous sommes, comme je l'ai dit, à l'école de Christ. Alors, c'est quelques principes, c'est des principes que nous connaissons, mais il faut que ça devienne plus que des principes, c'est des façons de vivre cette relation. Nous avons cette relation, le Seigneur nous appelle à une relation personnelle avec lui. Dans Matthieu, au chapitre 10 et au verset 38 à 39, il nous dit « Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Mais celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et nous avons cette parole dans Matthieu 11, au verset 28 à 29, parole que j'aime beaucoup. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà, cette relation avec le Seigneur, c'est une relation, c'est le Seigneur qui a tout accompli. Mais il me donne un choix. Est-ce que la plupart d'entre nous, je pense, avons fait ce choix? Mais c'est tous les jours que nous progressons dans cette relation. Oui, la relation avec le Seigneur est exigeante. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, c'est sa parole. Elle est exigeante, mais elle est vraie et belle car c'est la seule place qui vaille dans ce monde. Le Seigneur me procure la paix et le repos. Il me demande également de revêtir son caractère. Alors pour ceux qui ont été là samedi dernier, nous avons eu un moment pendant Pâques de lavement des pieds. Alors c'est vrai que ça avait interpellé beaucoup de gens, moi le premier, mais au final, c'est vrai que ça a été quelque chose bénéfique. Hein, pour ceux qui ont été là samedi dernier, parce que en faisant cet exemple, nous avons compris qu'en fait, c'était pas l'acte en lui-même qui était important, mais c'était cette façon de revêtir cette humilité de Christ. Et si Christ, lui, le maître, a fait ça, c'est abaisser, à laver le pied de ses disciples, nous-mêmes, entre nous, il nous appelle à faire preuve d'humilité. Le Seigneur nous appelle à revêtir son caractère. Et également, toujours, on en revient toujours à là, mais dans cette place centrale, c'est le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui, la parole de Dieu est exigeante. Elle n'est pas faite par demi-mesure. Elle n'est pas à géométrie variable. Cette parole, le Seigneur, et je pense que la plupart d'entre nous en sont convaincus, nous a pardonné. Nous qui étions indignes, il est allé nous chercher, nous qui étions condamnés, il est allé, voilà, il nous a pardonné. Mais nous sommes au bénéfice de ce pardon, mais nous devons également, nous-mêmes, le Seigneur nous appelle à pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal. Amen. C'est pas quelque chose de facile, d'ailleurs, c'est quelque chose d'impossible à l'homme, mais c'est pour ça que la grâce de Dieu, c'est par cette grâce, et c'est le Seigneur qui guérit les cœurs. Mais il veut des cœurs honnêtes. Et dans notre relation avec le Seigneur, chacun, chacune d'entre nous, on doit avoir cette honnêteté de dire, Seigneur, bah, tu vois ce que m'a dit la sœur, ce que m'a fait le frère, ce que peut-être même le pasteur ou je ne sais pas qui. Tu vois, Seigneur, c'est trop dur. Je pardonne avec mes mots, mais j'arrive pas à pardonner. Il y a toujours cette rancune. Eh bien, dépose ça au pied de ton Seigneur. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà, et si tu crois vraiment que le Seigneur t'a pardonné, tu dois aller au-delà et tu dois dire « Je pardonne ». Amen. Nous avons également, le Seigneur nous appelle également dans, il nous donne un commandement nouveau dans Jean au chapitre 13, au verset 35, nous lisons, le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle, je vous donne un commandement nouveau comme il nous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il rajoute, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et ce qui est interpellant, c'est que vis-à-vis des, justement, de, à tous, c'est-à-dire notamment des non-croyants, le premier témoignage que l'on peut faire, le premier beau témoignage que l'on peut faire pour Christ, ce n'est même pas de parler de Christ. C'est simplement l'amour que nous portons les uns pour les autres. Parce que les non-croyants, peut-être en venant à l'église ou en voyant notre relation, ils vont être interpellés par quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est la parole du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, c'est des paroles, et quand c'est peut-être, c'est souvent peut-être un peu compliqué, un peu difficile, parce que nous sommes une famille, hein, nous ne sommes pas choisis, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Voilà, il y a toujours des caractères différents, il y a toujours il peut avoir des interpellations, il peut avoir des colères, il peut avoir des choses, et voilà, tout se fait par amour et, voilà, le pardon est vraiment central et l'amour que nous devons nous porter, ce n'est pas optionnel, c'est vraiment la parole du Seigneur. Amen. Voilà, c'est vraiment des principes, mais des principes de vie. Le Seigneur veut vraiment cette relation de maître à disciple que nous-mêmes nous ayons, vraiment c'est que nous faisons vivre nous-mêmes, c'est cet amour que le Christ nous a donné, que nous transmettons cet amour. Le Seigneur nous interpelle par amour et ne nous juge pas. Il nous aime tellement qu'il veut que chacun de ses enfants puisse vivre cette relation particulière avec lui. Et nous avons partagé jeudi dernier, lors de notre réunion de prière également, la vie chrétienne. Le Seigneur a tout remporté à la croix, mais donc nous n'avons aucun mérite. Mais nous devons faire vivre cette relation. Et l'une des façons de voir que cette relation et fructueuse, c'est de voir le fruit de l'Esprit. Nous avons dans Galates 5, au verset 24 à 26, cette parole, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il rajoute, la loi n'est pas contre ces choses, c'est Paul qui parle. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Voilà, donc c'est vraiment, et il est important, vous notez, il est parlé du fruit de l'Esprit au singulier. C'est pas les fruits de l'Esprit. C'est un seul fruit, on peut pas choisir, moi je vais choisir la joie, toi tu prends la patience, et toi la foi. Non, c'est un seul et même fruit. Et nous devons vraiment avoir ce cœur avec le Seigneur et cette volonté d'être transformé tous les jours. Frères et sœurs, oui, le Seigneur, nous avons vu que le Seigneur, par sa parole, nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne qui il est, nous révèle que Dieu nous donne la liberté, mais nous donne également des bornes, parce que Dieu veut tellement notre amour, mais il ne veut pas un amour forcé, il veut un amour libre. Nous avons vu également que Dieu est miséricordieux et que même avec le méchant, il veut que le méchant puisse être sauvé. Qu'avec Moïse, nous avons vu l'exemple avec Moïse que Dieu est notre ami. Il veut vivre une relation intense et vraie avec nous. Jésus nous a révélé le Père Céleste et doit toujours être au centre de ma vie chrétienne. Je dois avoir les yeux fixés sur lui et vouloir lui montrer mon amour en se laissant transformer et revêtir de son caractère. Amen. Père Céleste, merci Seigneur de nous permettre vraiment dans cette relation, dans ces temps que nous vivons, Seigneur, en tant que disciple, Seigneur, tu es le maître bon, Seigneur, tu es le maître juste, tu es le maître saint. Que cette relation d'amour, que cette relation de confiance, Seigneur, perdure tous les jours, Seigneur, jusqu'à ton retour, Seigneur. Seigneur, c'est une place merveilleuse que tu nous as faite, Seigneur. Et Seigneur, que je puisse également, avec mes frères et sœurs, voir chacune d'entre nous comme quelqu'un aussi aimé, Seigneur. Nous sommes tous des enfants et nous sommes tous aimés par le Père Céleste, Seigneur. Et tu nous as aimés, Seigneur. Alors tu vois mon cœur ce matin, Seigneur. Tu vois, Seigneur, cette envie, Seigneur, de t'adorer, de te louer, Seigneur, de continuer dans cette relation, mais également tu vois cette fatigue, peut-être cette lourdeur, peut-être ces colères, ces racines d'amertume que je prends dimanche après dimanche, jour après jour, que je garde dans mon cœur, parce que je ne sais pas, Seigneur, comment faire. Le Seigneur te dit, si tu ne sais pas, il n'y a pas de problème. C'est pas par tes propres mérites ou tes propres forces que tu vas progresser, mais c'est simplement en abandonnant tout à moi. Le Seigneur dit, venez, et venez vous tous qui êtes fatigués et chargés ce matin. Simplement, le Seigneur appelle, le Seigneur veut un cœur ouvert, et le Seigneur fait le reste. Si c'est trop dur pour toi, eh ben, dis Amen, Seigneur, j'abandonne tout à toi. Amen. Merci, Seigneur. Et que ta gloire se révèle jour après jour jusqu'à ton retour. Amen. Soyez bénis.